La femme d'un des prophètes cria vers Élisée. « Mon mari, ton serviteur, est mort, et tu sais qu'il craignait le Seigneur. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as à la maison. » Elle répondit, « Moi, ta servante, je n'ai rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. » Il dit alors, « Sors dans la rue, demande à tous tes voisins des récipients vides. Ne te contente pas d'un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Il lui passait les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, « Passe-moi encore un récipient. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de récipient. » Alors l'huile s'arrêta. Elle vint raconter tout cela à l'homme de Dieu. Celui-ci dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. »
Il ne se passe pas une semaine sans qu'on entende parler d'une tragédie. C'est particulièrement le cas à notre époque si médiatisée. Et quand je dis une tragédie, en fait, c'est plusieurs. Il y a eu récemment, on en a peu parlé en Europe, mais des attentats au Cameroun. Il y a cette guerre en Syrie, terrible, qui continue. Il y a la guerre aussi en Irak, une guerre dont on parle également pas beaucoup au Sud-Soudan. Par ici, en Occident, en France, la crainte du terrorisme et parfois des actes terroristes. Et puis, il y a bien sûr des drames aussi moins spectaculaires, mais non moins réels. Encore ce matin, 4 adolescents qui se tuent en voiture en Bretagne. Sur un autre plan, ces agriculteurs qui ne s'en sortent plus, qui n'arrivent plus à avoir assez pour vivre. Le sentiment aussi d'une perte de sens et de repères dans la société. Et puis, j'imagine, je n'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que plusieurs ici ont certainement vécu des drames dans leur vie personnelle, des choses très difficiles. Nous vivons dans un monde déchu, c'est ce que la Bible nous enseigne, un monde qui a chuté, qui s'est révolté contre Dieu. Et quand on dit un monde qui s'est révolté contre Dieu, c'est l'humanité qui s'est révoltée contre lui. Un monde, par conséquent, qui est marqué par le mal et par la souffrance qui trouvent leur origine dans cette révolte humaine contre son Créateur. Un monde en attente de rédemption, et ça c'est ce que la Bible nous apprend aussi, en attente d'une délivrance finale. Mais aujourd'hui, alors que nous faisons ce constat d'un monde qui souffre, on se pose cette question et finalement, en tant que croyant, on se la pose assez régulièrement. Quel est le positionnement de Dieu, du Dieu de la Bible, face à la souffrance humaine? C'est une question d'une importance capitale. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce qu'il fera? Comment est-ce qu'il réagit? Et on va entrevoir certains aspects de la réponse biblique à cette question en étudiant pendant 4 dimanches de suite, le soir, en étudiant le deuxième livre des Rois. Et on va lire quelques épisodes qui nous montrent l'action de Dieu dans des situations dramatiques, et en particulier dans des drames personnels. Alors bien sûr, on ne va pas faire le tour avec ces 4 textes, on ne va pas faire le tour de la question du mal et de la souffrance. Il faudrait étudier bien d'autres textes de la Bible pour cela, mais on va essayer d'apprendre certaines choses sur Dieu et sur la manière dont il agit face à la souffrance. Dans le texte de ce soir, si vous l'avez suivi, entendu la lecture que nous en a fait Christelle, vous aurez constaté qu'on voit Dieu agir à très petite échelle auprès d'une famille, une simple famille, qui reste anonyme d'ailleurs tout au long du récit, et qui ne réapparaîtra pas plus loin dans le récit. Et en examinant ce texte, je voudrais qu'on se pose la question suivante. Qu'est-ce que Dieu révèle de son attitude et de son action dans nos situations dramatiques, dans nos souffrance. Et on va voir ça en 3 temps ce soir, en parlant d'abord d'un appel à l'aide, puis un miracle sur mesure, et enfin un aperçu du cœur de Dieu. Donc tout d'abord, un appel à l'aide. En parcourant ces quelques textes du second livre des Rois, on va voir un homme intervenir régulièrement, un homme du nom d'Élisée. Élisée a pris la suite du prophète Élie, qui est peut-être un petit peu plus connu. Les prophètes, dans l'Ancien Testament, avaient comme première vocation d'appeler le peuple à revenir vers Dieu. On voit parfois en eux, avant tout, des sortes de devins. Il pouvait arriver qu'ils parlent de l'avenir, bien sûr, mais leur premier rôle, c'était d'appeler le peuple à revenir vers Dieu, d'appeler Israël à revenir à son Dieu, à abandonner ses idoles, à abandonner ses pratiques immorales. En ce qui concerne Élie et Élisée, on voit qu'ils ont aussi un rôle pour apporter le secours de Dieu au peuple dans diverses situations. Et c'est ce qu'on va voir, par exemple, ce soir. C'est frappant de voir que leurs interventions sont très diverses. Au chapitre 3, qu'on ne va pas lire ce soir, mais on voit Élisée intervenir à grande échelle auprès du roi d'Israël et de Juda, le royaume juste au sud d'Israël, dans le contexte d'une opération militaire. Donc là, il y a les rois, il y a l'armée. Mais par contre, ici, dans le chapitre 4, le cadre est complètement différent. Il fait face à une simple famille. Une femme vient lui annoncer la mort de son mari. Un drame à petite échelle, mais bel et bien un drame. Et on peut vraiment dire que cette femme fait face au pire moment de sa vie. Fait face vraiment au pire moment de sa vie. Alors on peut sans doute tous penser aux moments les plus difficiles de notre vie. Ce n'est pas forcément agréable à faire, mais si on y réfléchit un peu, on peut penser à des moments très difficiles de notre vie. La perte d'un emploi peut-être, un diagnostic médical inquiétant, une rupture douloureuse, le deuil d'un être cher. Peut-être que certains, ce soir même, et sans forcément qu'on le sache, sont en train de vivre une situation qu'on pourrait qualifier de dramatique. Eh bien, la femme de notre récit, elle vient de devenir veuve. Perdre son conjoint, c'est une souffrance terrible et on le conçoit très bien aujourd'hui encore. Mais à l'époque, il faut comprendre qu'en plus de cette douleur émotionnelle, il y avait la menace d'une grande précarité sociale, plus que la menace, la réalité d'une grande précarité sociale. Et en particulier pour les femmes qui perdaient leur mari, pour les veuves. Le père de famille était presque toujours celui qui subvenait aux besoins matériels de la famille. Il n'y avait pas à l'époque de pension de veuvage, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas d'allocation chômage ou quoi que ce soit. Et le pire ici, c'est que la famille est endettée. Alors est-ce qu'elle était déjà endettée du vivant du mari ou est-ce que c'est parce qu'il est mort depuis quelque temps déjà et qu'il a fallu s'endetter pour survivre au jour le jour? On ne sait pas, mais en tout cas la veuve ne peut plus faire face. Et la situation à laquelle elle s'expose est terrible. Au fin du verset 1, voici ce qu'elle nous dit. « Le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Elle a perdu son mari. On menace de prendre ses enfants et de les réduire à l'esclavage. Vous imaginez à quel point sa situation est dramatique. Et ici, il n'y a pas de plan d'aide de l'Eurogroupe ni de prêt du FMI face à cette dette. La seule perspective qu'a la veuve, c'est cette perspective de voir ses enfants réduit à l'esclavage, le temps qu'il repaye la dette et qui sait ce qui leur arrivera. Donc le narrateur nous fait le récit d'une situation particulièrement sombre, mais il cherche aussi, je crois, à mettre le doigt sur une injustice. L'homme qui est mort craignait Dieu, c'est ce qu'on apprend, c'est ce que sa femme dit à Élisée. Et on peut supposer qu'elle aussi craignait Dieu, puisqu'elle va trouver Élisée, le prophète, reconnu comme étant le prophète du Seigneur à l'époque. Or, on constate que cette crainte de Dieu, par quoi il faut comprendre cette reconnaissance que Dieu est au cœur de la vie et qu'on doit vivre sa vie centrée sur lui, cette crainte de Dieu, elle n'a pas empêché sa famille de devoir faire face à la pauvreté et maintenant à l'injustice. On a ici un exemple de plus, on en a d'autres dans la Bible et on en a dans nos expériences personnelles, de ce que la fidélité à Dieu ne signifie pas forcément que la vie sera facile. Et aujourd'hui encore, on ne peut s'empêcher parfois de se poser cette question. Alors on comprend peut-être en théorie que le monde est souffrant à cause du péché des hommes, mais comment expliquer que des croyants, des chrétiens, fidèles, persévérants, soient exposés au malheur? Et la veuve de notre texte ne propose pas de réponse à cette question, mais qu'est-ce qu'elle fait dans la souffrance? Eh bien, elle appelle à l'aide. Dans sa détresse, elle cherche le secours auprès de Dieu. Et elle va voir celui dont le ministère est reconnu comme étant conduit par Dieu, Élisée. C'est frappant de voir que la veuve ne propose pas de solution. Et d'ailleurs, elle ne demande rien de précis à Élisée. Simplement, elle appelle à l'aide. Elle exprime sa douleur. Ce n'est pas facile de demander à l'aide. Et on en a sans doute fait l'expérience, les uns et les autres. Reconnaître qu'on est vulnérable, reconnaître que peut-être dans telle ou telle situation, on n'arrive plus à s'en sortir, ce n'est pas facile. Et peut-être particulièrement aujourd'hui, dans une culture de l'apparence où il faut toujours donner la meilleure image de soi. Et même dans une église comme la nôtre, on n'est pas à l'abri de cela. Il peut arriver même qu'une fausse idée de la spiritualité, de la persévérance dans la foi nous pousse à vouloir toujours tout garder pour nous-mêmes, prendre sur soi toutes les souffrances par lesquelles nous pouvons passer. Or, on le voit encore et encore dans la Bible, sans cesse, Dieu nous invite à exprimer notre souffrance. Il ne s'agit pas de passer son temps à se plaindre, ce n'est pas ça l'idée, mais lorsqu'on souffre réellement, de l'exprimer. Dieu nous invite à l'appeler à l'aide. Parce que la Bible nous montre de manière très claire que même dans les situations les plus difficiles, Dieu est là. Et il a encore des projets pour nous. Et il est disponible. On peut lui parler. Il écoute. Dans ce récit, on peut supposer que la veuve a prié, qu'elle a appelé Dieu à l'aide par la prière. Le texte ne nous le dit pas. Mais elle a en tout cas appelé à l'aide son porte-parole, Élisée. Et c'est frappant de voir que plus loin, la solution que Élisée va apporter de la part de Dieu va impliquer aussi la solidarité de tous les voisins. On se croirait presque dans l'émission « Tous ensemble », on recrute les voisins pour retaper une maison, parce que vous avez déjà vu ça. Mais ici, c'est un peu ça, sauf que la veuve va simplement aller demander dans le voisinage des récipients vides, et on va voir que Dieu va utiliser ces récipients pour apporter sa délivrance. Donc Dieu va intervenir, mais comment est-ce qu'il va intervenir ? En suscitant des personnes, des hommes et des femmes, comme médiateurs de son intervention. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent. Parfois, on s'attend, dans une situation de grand besoin, on s'attend à une expérience directe de Dieu. On s'attend à ce qu'il il intervienne de manière immédiate et directe, alors que peut-être qu'il nous envoie aussi des frères, des sœurs, des amis, des personnes qui vont être sa réponse à la prière, à nos prières. Sans doute que plusieurs ont déjà entendu cette blague. Enfin, si vous êtes habitué à aller à l'église, c'est une blague qui circule un peu parfois dans les milieux chrétiens. De l'homme menacé par une inondation et qui prie Dieu de venir à son secours. Et un voisin lui tend une échelle, mais il la refuse parce qu'il dit non, j'ai demandé à Dieu, il va venir me sauver. Puis des gendarmes passent à côté de lui et lui disent montez sur le toit, on va venir vous chercher. Il dit non, j'ai demandé à Dieu. Il va venir me sauver. Puis il y a un hélicoptère qui s'approche et on essaie de lui lancer une corde, mais il refuse en disant qu'il a prié et Dieu va forcément venir à son secours. Et après avoir finalement péri dans le drame, il se retrouve devant Dieu et lui demande « Mais Seigneur, j'ai prié et pourquoi tu ne m'as pas sauvé ?» Et Dieu lui répond « Mais je t'ai envoyé un voisin, des gendarmes et un hélicoptère. » Alors évidemment, c'est une blague un peu mi-drôle, mi-amère, mais c'est parfois notre réaction. Et le texte de ce soir nous rappelle que la vie avec Dieu ne se vit pas seule, elle se vit au sein d'une communauté, au sein d'un peuple, l'Église, le peuple de Jésus-Christ, un peuple qui se rassemble localement partout dans le monde, et notamment ici à la rue de Sèvres, un peuple qui communie comme on l'a fait tout à l'heure, un peuple qui se rappelle ensemble donc l'œuvre de Dieu en sa faveur, mais aussi un peuple qui vit sa foi ensemble et qui vit les épreuves de la foi ensemble. Est-ce que vous êtes déjà dit que les personnes qui sont là ce soir, par exemple, sont des personnes avec qui vous pourriez vivre vos épreuves ? Des personnes qui pourraient vous entourer dans ces moments-là, des personnes qu'il faudrait peut-être oser solliciter pour qu'elles vous écoutent, pour qu'elles prient pour vous, pour qu'elles soient là. Et est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vous pourriez être celui ou celle qui apporte de l'aide à quelqu'un, qui apporte un encouragement ? Je sais que pour ma part, je me pose trop rarement cette question. Pour vous, il n'y a peut-être aucun problème, vous vous la posez tout le temps, mais moi je sais que parfois j'oublie cela. Le texte de ce soir nous rappelle que la vie avec Dieu ne se vit pas seule. Et peut-être qu'il y a quelque chose que vous demandez à Dieu depuis longtemps, un secours, un réconfort, une aide dans telle ou telle situation, mais qu'en même temps, sans vous en rendre compte, vous vous privez peut-être du soutien qu'il souhaite vous apporter par le biais de la communauté des croyants. Peut-être que cette personne avec qui vous vous contentiez jusque-là d'échanger des banalités, pourra être celui ou celle qui, aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, pourra prendre du temps avec vous pour prier pour la situation difficile par laquelle vous passez. Il y a aussi, bien sûr, des responsables spirituels qui, comme moi-même, qui sont disponibles pour cela. Mais pas seulement, aussi, tout simplement, les uns et les autres. N'ayons pas peur d'appeler à l'aide, d'appeler Dieu à l'aide, non seulement dans le secret de nos cœurs, il y a bien sûr un temps pour cela, mais aussi en étant prêts à partager nos épreuves au sein de l'Église. Maintenant, je voudrais revenir à notre texte pour aborder, après cet appel à l'aide, le deuxième point que je voudrais relever, un miracle sur mesure. On a vu que la veuve a été prête à appeler au secours. Elle est allée trouver un prophète qui était prêt à lui apporter le secours de Dieu. C'est frappant de voir qu'Élisée ne dit pas « Non, excuse-moi, je n'ai pas le temps ». Tout de suite, il lui dit « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi ce que tu as à la maison. » C'est intéressant de voir qu'Élisée demande à la femme ce qu'elle a à la maison. Pas forcément ce qu'on aurait attendu. Il commence par faire le point sur sa situation, aussi désespérée soit-elle. Et je crois que cet épisode reflète bien la manière de faire de Dieu telle qu'il se révèle souvent dans la Bible. Souvent, Dieu commence par utiliser ce que nous avons, même quand c'est peu, et même parfois, surtout quand c'est peu. Dans notre texte, c'est un simple flacon d'huile. C'est vraiment trois fois rien. Comment est-ce qu'Élisée, et comment est-ce que Dieu, en définitive, va faire quelque chose à partir d'un simple flacon d'huile ? Eh bien, plusieurs épisodes de la Bible nous montrent que Dieu aime montrer sa puissance dans nos situations de faiblesse. On peut penser à Moïse qui dit qu'il n'arrivera pas à parler en public et que donc il n'est pas qualifié du tout pour le job de sauveur des Israélites, pour les faire sortir d'Égypte, aller vers la terre promise. Mais Dieu répond « Non, non, je t'inquiète pas pour ça, je m'en occupe, je ferai avec ce que tu as. » David se présente devant Goliath avec une simple fronde et sa foi en Dieu. Dieu utilise ce qu'il a. Les disciples de Jésus font face à une foule affamée. Ils n'ont que quelques pains et quelques poissons. Jésus va utiliser ce qu'ils ont. Peut-être que nous avons des dons, des circonstances et des disponibilités qui nous paraissent extrêmement faibles. Et je crois que Dieu nous pose cette question. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Qu'est-ce que tu as à la maison ? Alors revenons-en à notre veuve. Elle a un flacon d'huile, tout simplement. Mais Élisée, inspirée par le Saint-Esprit, n'a aucun doute sur le fait que Dieu va pourvoir à ses besoins à partir de cet objet misérable. Regardons bien comment Dieu va rendre la veuve pleinement impliquée, verset 3, pleinement impliquée dans la délivrance qu'elle va recevoir. « Sors dans la rue, demande à tous tes voisins des récipients vides, ne te contente pas d'un petit nombre. » Non seulement Dieu va utiliser le peu que la veuve a, mais il va accomplir un miracle, en quelque sorte sur mesure, en utilisant du début à la fin des choses qui sont à sa portée, des choses qui sont disponibles pour elle. Un misérable flacon d'huile qui va devenir une source abondante d'huile, et puis des récipients vides qui vont devenir des récipients pleins à ras-bord de l'abondance que Dieu a pourvue. C'est intéressant, je trouve, de voir dans ce texte, quand on regarde les versets 5 à 7, que Dieu ne transforme pas du tout au tout la situation de la femme. Elle ne devient pas richissime, il ne va pas l'envoyer dans un palais, pas du tout. Elle va même devoir aller vendre l'huile pour pouvoir payer sa dette et vivre du reste. Dieu inscrit son intervention dans la réalité de la veuve. Il remplit les récipients dont elle dispose. Il rétablit sa situation et son honneur. Il répond précisément à son besoin. Il me semble que ce texte-là encore nous donne un exemple touchant et éclairant de la manière d'agir de Dieu dans nos situations de difficulté. Alors en disant cela, je suis conscient que dans ce texte, il y a un élément apparemment surnaturel, un miracle, et qu'on peut avoir du mal à s'identifier à ça. Et je vais ouvrir une toute petite parenthèse. La Bible montre que Dieu peut accorder des miracles, bien sûr, et qu'il le fait parfois dans la Bible, et il le fait parfois encore aujourd'hui. Mais la Bible montre aussi, et l'expérience, je crois, nous montre également, que ce n'est pas sa manière habituelle d'agir. Et ça ne devrait pas nous surprendre, parce que Dieu est lui-même à l'origine des lois régulières selon lesquelles notre univers fonctionne. Les diverses lois de cause à effet qu'on trouve dans l'univers, la régularité qu'on trouve dans notre monde, c'est Dieu qui a créé tout ça. C'est Dieu qui a voulu que les choses se passent ainsi. Et généralement, c'est Dieu, c'est dans le cadre de ses lois que Dieu inscrit son action dans le monde. Et c'est là tout à fait logique et naturel. Cela dit, bien entendu, Dieu peut parfois, enfin, il peut toujours et il fait parfois des miracles, c'est-à-dire qu'il va sortir de ses règles habituelles. Et c'est ce qu'on voit, semble-t-il, manifestement dans ce texte. Donc je referme juste la parenthèse parce que c'est un point qui n'est pas toujours facile à cerner. Mais donc en disant que ce texte nous montre la manière d'agir de Dieu dans nos situations de difficulté, je parle plutôt de la démarche par laquelle Dieu répond précisément aux besoins de la veuve. Il va la rencontrer là où elle est, il va utiliser ses circonstances pour agir. Et je pose cette question, et si Dieu voulait utiliser dans notre vie précisément ces choses et ces personnes que nous avons autour de nous, qui font partie de notre quotidien, pour faire venir sa délivrance, pour faire venir l'abondance de ses bienfaits dans notre vie. Alors parfois, comme dans ce texte, il peut s'agir d'une délivrance matérielle, mais on peut imaginer bien d'autres situations dans lesquelles nous nous sentons pauvres. Peut-être ce célibat que vous vivez difficilement, ou peut-être pour certains cette vie conjugale que vous vivez difficilement. Peut-être cette situation professionnelle qui ne correspond pas à ce que vous aviez imaginé pour votre vie. Peut-être cette santé défaillante. Peut-être cet exil loin de votre pays, de votre famille. Peut-être cette dépression dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, etc., etc. Et si le Seigneur, je pose la question, et si le Seigneur avait pour projet d'utiliser précisément ces circonstances actuelles pour manifester sa puissance ? La Bible nous parle d'un Dieu qui a utilisé un instrument de torture, la croix, pour nous apporter la plus fondamentale, la plus essentielle des délivrances. Et ce Dieu-là, sans aucun doute, peut utiliser des choses qui aujourd'hui sont difficiles, nous font souffrir, et les retourner pour en faire le lieu de son intervention. Pour reprendre les exemples que j'ai cités, peut-être... ou certains de ces exemples, peut-être une maladie, par exemple, qui est vécue dans la foi et l'espérance en Dieu et qui rend un témoignage plus puissant que jamais. Peut-être un célibat saisi comme une occasion d'être, pour ce temps, particulièrement disponible dans la vie de ceux et celles qui nous entourent. Peut-être un métier pas très intéressant ou pas très reconnu socialement, mais où Dieu va se révéler de manière surprenante pour toucher les collègues. Peut-être une situation conjugale difficile, mais où l'un et l'autre vont apprendre à s'en remettre d'un commun accord à Dieu, se laisser transformer dans cette faiblesse, devenir une source d'encouragement et de solidité pour d'autres. Très souvent, nous demandons à Dieu de nous donner ce que nous n'avons pas, et c'est tout à fait légitime de demander, en tout cas parfois cela, mais peut-être que nous devrions demander aussi à Dieu d'utiliser ce que nous avons, même quand c'est peu. La première étape peut-être dans les jours qui viennent, ça pourrait être de faire une sorte d'audit de notre situation, de notre vie devant Dieu. De lui dire, voilà ce que j'ai, Seigneur. Peut-être que comme la veuve, votre réponse, ça sera trois fois rien. Mais demandez à Dieu ce qu'il peut faire de cela. Et il n'aura aucune difficulté à agir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. J'arrive brièvement à mon dernier point. Un aperçu du cœur de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi de faire du bien à cette veuve anonyme dont on n'entendra plus jamais parler ? Comment comprendre une attention à si petite échelle ? Et je dois dire que c'est une des choses qui m'émerveille régulièrement dans la Bible, que le Dieu éternel, tout-puissant, omniscient, intervienne dans des situations parfois qui apparaissent dérisoires, ou comme dans des situations humaines, personnelles, individuelles. Il me semble que ce texte, comme d'autres, nous montre qu'en fait Dieu est un grand sentimental. Le même Dieu qui, dans d'autres épisodes de la Bible, se révèle dans sa majesté, dans sa toute-puissance, bien ici, il donne un aperçu de son cœur. Et la compassion de Dieu, ce n'est pas une bienveillance distante et distraite, en quelque sorte. C'est une compassion qui le prend aux tripes. Et la Bible utilise ce genre de langage, parfois. Le prophète Sophonie dit que Dieu pousse des cris de joie au sujet de son peuple. Oui, c'est une image, mais une image qui nous dit quelque chose de très fort. Dans le livre du prophète Osée, Dieu lui-même dit à propos des souffrances de son peuple, « Mon cœur est bouleversé, toute ma pitié s'émeut. » Et puis, le Dieu qui s'est parfaitement révélé en Jésus-Christ, son Fils, va faire arrêter une procession funéraire dans la ville, petite ville de Naïn, parce qu'il est bouleversé par une veuve qui a perdu son fils unique. Il va passer des heures à guérir les foules. Il nourrit plus de 5000 personnes à partir de 5 pains et 2 poissons. Et dans l'histoire de la veuve, comment ne pas voir certains échos ou avant-goûts de notre histoire à nous ? Nous étions endettés devant Dieu, au-delà de tout espoir, sans espoir de pouvoir trouver compassion auprès de lui par nos propres efforts. Nous étions réduits à l'esclavage de notre péché. Nous n'avions rien, même pas un flacon d'huile, à faire valoir devant la justice de Dieu à cause de la gravité de notre péché. Mais Dieu a entendu notre appel à l'aide. En Jésus-Christ, il est venu chez nous. Il a pris ce que nous sommes, il a pris ce que nous avons. Des réalités dérisoires lorsqu'on les compare à qui il est, lui. Et il nous a comblés pour toujours de l'abondance qui vient d'une relation éternelle avec lui. L'apôtre Jean écrit ceci au début de son évangile. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. Parfois, ces grâces ne sont pas celles qu'on attend. Dieu manifeste aussi sa grâce dans nos épreuves. Mais si je sais que je suis aimé par un Dieu tout-puissant, je sais que même les plus dures épreuves se révéleront un jour, même si aujourd'hui je ne sais pas comment, mais elles se révéleront un jour comme des circonstances que Dieu aura utilisées pour me faire grâce. Dieu nous émerveille dans sa parole lorsqu'il se révèle dans sa puissance, dans sa majesté. Mais il nous émerveille aussi lorsque lui qui est le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, se penche à notre chevet, comme dans ce texte, nous tend la main et nous remet debout. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu es le Dieu qui a compassion de ceux qui souffrent. Nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu qui est prêt à intervenir à ta manière, en ton temps, et souvent de manière qui nous surprend, mais toujours de la manière qui se révélera de manière ultime être la meilleure. Et nous voulons te remercier parce que nous savons que nous pouvons te faire confiance et nous pouvons compter sur toi. Au nom de Jésus. Amen.